Radio Okapi.
Et voici le sommaire de votre actualité du soir. Les déplacés de Savo en Ituri sont désormais assistés par le programme alimentaire mondial, PAM en sigle, mais une assistance limitée. Les abris, l'eau et les médicaments reçus ne font pas le poids par rapport au nombre de bénéficiaires évalués à pas moins de 70 000 déplacés. Deux poteaux de la ligne haute tension se sont effondrés à Mbujima et au Kasaï oriental depuis une semaine maintenant. Les conséquences à ce jour sont, elles, déjà énormissimes selon les commerçants des vivres frais, mais aussi autres propriétaires des cybercafés ou encore bureautiques. Les embouteillages de la capitale de la République démocratique du Congo risquent peut-être de faire boule de neige dans d'autres provinces du pays. Il est rapporté que Matadi aussi vit des embouteillages notables. Pourquoi et comment ce phénomène a-t-il réussi aussi à frapper le chef-lieu portuaire? Dominique Nkodiambete, maire de Matadi, est notre invité ce soir pour nous éclairer dans un instant. Agréable plaisir de vous retrouver pour cette session de partage d'informations. En Ituri, 73 000 déplacés du site de Savo près de Boulé dans le territoire de Djougou reçoivent désormais une assistance alimentaire du programme alimentaire mondial. Malgré cette aide, la situation humanitaire reste préoccupante. La majorité des déplacés passent la nuit à la belle étoile, tandis que l'accès aux soins médicaux et à l'eau potable demeure insuffisant. Ces déplacés l'ont exprimé aujourd'hui à Bruno Lemarquis, coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, en visite sur place. Isaac Raymond.
Cela faisait environ 6 mois que ces déplacés n'avaient pas reçu d'assistance alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, 625 tonnes de vivres seront distribuées à près de 73 000 personnes actuellement installées sur ces sites. Une aide qui contribue à améliorer tant soit peu leurs conditions de vie. Sur place, la situation restait difficile. Entre 2 et 5 décès étaient enregistrés chaque jour, notamment en raison du manque d'accès aux champs liés aux opérations militaires dans la zone. Les bénéficiaires expriment leur soulagement.
Nous exprimons notre gratitude pour l'assistance alimentaire du PAM, car ici la population souffre énormément. Il n'y a pas de nourriture et nous n'avons pas accès aux champs. Des personnes meurent de faim.
En plus de l'aide humanitaire, les humanitaires fournissent des soins médicaux gratuits, notamment aux enfants souffrant de malnutrition, ainsi que de l'eau potable. Mais les besoins restent énormes. Les déplacés demandent davantage de soutien et appellent à un plaidoyer à leur faveur. De son côté, Bruno Lemarquis souligne que les humanitaires font de leur mieux, malgré les contraintes financières au niveau mondial.
Les acteurs font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités financièrement. Mais vraiment, le cri de tout le monde, c'est la paix pour que les gens puissent rentrer chez eux.
Plusieurs partenaires humanitaires interviennent dans la zone, notamment Médecins Sans Frontières, les PAM et les ACER, pour venir en aide à ces populations en détresse. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Puis cette vive alerte lancée par Amnesty International, dans un rapport publié aujourd'hui même, l'organisation internationale dénonce les exactions massives commises par les combattants des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe armé affilié à l'État islamique, contre les civils dans la province du Nord Kivu, en Ituri, et aussi meurtres, enlèvements, tortures, mariages et grossesses forcées, des violences qualifiées de crimes de guerre, mais aussi de crimes contre l'humanité dans ce que l'ONG décrit comme une crise largement ignorée par le monde. Martial Papimukeba.
Dans ses rapports, Amnesty International décrit une violence extrême infligée aux civils par les ADF. L'organisation évoque des personnes tuées, enlevées ou torturées dans une campagne de violence soutenue. Selon elle, les attaques visent les populations, mais aussi les champs, centres de santé et habitations, souvent pillés puis incendiés. Ces violences aggravent les déplacements des populations et perturbent l'accès à des services essentiels comme l'alimentation, la santé et l'éducation. Les rapports fait aussi aussi état d'enlèvement massif, de travail forcé et de recrutement d'enfants. Des femmes et des filles subissent mariage forcé, grossesse imposée et violences sexuelles répétées. Amnesty International insiste, ces exactions constituent des crimes de guerre et contre l'humanité que le monde ne peut plus ignorer. Elle alerte aussi sur une crise oubliée. Pendant que la tension se focalise sur l'AFC-M23, les ADF intensifieraient leurs attaques dans l'est du pays, précise Amnesty International. L'organisation appelle en fait les autorités congolaises et la communauté internationale à agir en urgence pour protéger les civils et traduire les responsables en justice. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, condamne avec fermeté les actes de vandalisme ayant visé aujourd'hui son siège situé sur le boulevard Sendwe dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Le bâtiment a été incendié en marge d'une marche organisée par l'UDPS, formation au pouvoir avec la participation de plusieurs partis membres de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Cette mobilisation visait notamment à soutenir les récentes sanctions américaines prises contre l'ancien président Joseph Kabila, accusé de soutenir les rebelles du M23. Réagissant aujourd'hui sur Radio Okapi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, dénonce des dérives du pouvoir et interpelle la communauté internationale, en particulier les États-Unis, qu'il accuse de fermer les yeux sur les violences visant l'opposition. Ferdinand Kambere, joint par Grace Amzati.
On ne peut pas accepter que les États-Unis soient derrière des partis violents en démocratie, comme c'est le cas. Encore que les États-Unis et même toutes les autres ambassades, ils sont témoins de ce qui se passe dans notre pays. Les ambassades avaient été victimes aussi des violences, des manifestations de ces mêmes partis politiques au pouvoir. Parce qu'il y a un régime Félix qui est au pouvoir, parce qu'il y a eu des accords signés. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne savent pas avoir la clarté, les contenus de ces accords sinominéraux qu'on appelle accords sous la paix. Ces régimes-là est protégé, ces régimes-là peuvent s'attaquer aux autres partis politiques de l'opposition sous la bénédiction des États-Unis, en tout cas comme parti politique. Ce qu'on a vu hier est couvert sous le soutien de quelconques sanctions qui ne sont du reste que des sanctions administratives. Le PPRD, avec la dernière énergie, nous condamnons les actes de vandalisme qui se sont passés hier à notre siège de Sendwe. Les images en parlent.
Au Kasaï oriental, une semaine après la coupure du courant de la Société nationale d'électricité SNEL provoquée par l'effondrement de deux poteaux de la ligne haute tension, les répercussions se font sentir en Boujimaï. Vendeurs de vivres frais et propriétaires de bureautiques tirent la sonnette d'alarme face au manque à gagner qu'entraîne cette coupure. Esther Dalafina.
En Boujimaï, les commerçants de vivres frais sont parmi les premiers à ressentir les effets de la coupure prolongée de l'électricité. Sans réfrigération, une partie de leurs marchandises se détériore, entraînant des pertes financières importantes et une baisse notable de leurs revenus.
D'abord, nos vivres frais s'abîment parce que nous n'avons pas de courant.
Tellement nous, on va des vivres frais, on est vraiment coincé. Il faut que le gouvernement intervienne un peu pour nous décanter un peu à ça.
Dans le quartier Tcha-tcha-tcha, Simon Sekela, propriétaire d'une bureautique très fréquentée, déplore lui aussi un manque à gagner considérable. Il affirme que plusieurs jours d'inactivité forcée ont paralysé ses services habituellement très sollicités par les étudiants et les opérateurs économiques.
Nous travaillons avec des ordinateurs qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et comme il n'y a pas de courant, les clients viennent et rentrent.
Pour rappel, c'est le mercredi dernier que deux poteaux de la ligne haute tension transportant l'énergie de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi se sont effondrés dans un ravin. L'incident a plongé une partie de la ville de Mboujimaï dans le noir, ainsi que les villages de Miabi et Boya. Esther Ndalafina, Mboujimaï, Radio Okapi.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, des stations-service ont été envahies aujourd'hui par des automobilistes pour l'approvisionnement en carburant. En cause, la réduction du prix du litre du carburant à la pompe qui passe de près de 6000 francs congolais à 4200 francs, une baisse constatée donc qui correspond à l'arrêté du ministère de l'économie du 4 mai dernier fixant la nouvelle structure des prix de carburant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails avec vous, Martial Kiza.
C'est une ambiance particulière qu'on a observée dans la plupart des stations-service au centre-ville de Bounia. Des particuliers, des motos et taxis de transport en commun affilent une tienne pour s'approvisionner en carburant. Un litre d'essence qui coûtait 5 000 francs à 6 000 francs congolais se vend désormais à 4 200 francs congolais. Une réduction saluée par les consommateurs qui souhaitent que cela impacte aussi le prix de la course à taxi.
Nous sommes contents de cette réduction du prix du carburant et nous pensons que ça pourra revenir comme dans le passé à 3 000 francs congolais. Comme il y a cette réduction du prix de l'essence à la pompe, nous souhaitons qu'il y ait également baisse des prix d'une course de transport en commun.
Le président du pétrolier de l'Ituri salue cette mesure du gouvernement qui, selon lui, a écouté les cris de détresse des populations de l'Est, région confrontée aux conflits armés. Il appelle les opérateurs économiques de ces secteurs à se conformer à cette nouvelle structure du prix des carburants, ce qui n'est pas encore le cas dans toutes les stations-service de la ville. Certains pompistes que nous avons interrogés disent attendre la décision de leur propriétaire avant de se conformer à ces nouveaux tarifs. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Jour 2 des épreuves hors session de l'examen d'État 2026 dans la province du Maniema. Les élèves finalistes ont exprimé leur satisfaction du déroulement de la première journée. Ils souhaitent que le climat positif qu'ils vivent depuis le début de ces examens se maintienne jusqu'à la fin de la session. Suivez certains d'entre eux au micro de Florence Kiza.
L'examen d'aujourd'hui était passé bien. C'était la dissertation. J'ai travaillé le sujet à expliquer, le travail à assurer l'indépendance. J'ai développé ce sujet et tout ça est passé bien.
La journée d'aujourd'hui est passée bien. Nous avions fait bien l'examen hors session de la dissertation et les examens se passent très très bien dans de bonnes conditions.
L'examen était passé bien. Moi j'ai choisi le sujet numéro 1. C'était le devoir de la jeunesse et de contester la corruption. C'était très bien, c'est bien passé. Et je pense que ce deuxième jour, l'examen va aller très bien.
Oui, d'après moi, l'examen était passé bon. Tout ce qu'on nous a enseigné, on a vu. Nous espérons que ça ira. Nous espérons que cette façon de poser, ça sera ainsi pour tous les jours.
Le comportement des surveillants était vraiment magnifique. Ils nous laissaient le temps de bien travailler. Ils ne nous dérangeaient pas trop. Et la place où on ne connaissait pas remplir, nous appelons les surveillants, ils nous montraient comment remplir. Et ils nous laissaient aussi travailler en paix et en sécurité. J'aimerais que ce climat continue jusqu'à la fin.
À Kananga, dans le Kasaï central, les enseignants de l'école primaire de la SNCC dénoncent un retard de paiement de leur salaire accumulé depuis 8 mois. Ils affirment que cette situation les empêche de subvenir aux besoins de leurs familles respectives et affecte à la fois leur motivation et la qualité d'encadrement des élèves. André Katende.
Depuis septembre dernier, aucun salaire ne leur a été versé. Certains enseignants reconnaissent qu'ils ne parviennent plus à donner les meilleurs d'eux-mêmes.
Il est vraiment difficile parce que nous sommes démoralisés. Nous ne sommes pas payés pendant les 8 mois. Les bailleurs, la condition alimentaire pose problème. On dit les conditions physiques entraînent le mental. Donc nous ne sommes pas posés pour bien encadrer les enfants comme nous avons toujours fait.
Le coordonnateur régional des écoles de la SNCC, Augustin Moulumba, appelle au calme. Il précise que la responsabilité de paiement relève de la direction générale basée à Lubumbashi.
Les enseignants étaient de passage ici. Nous leur avons expliqué que le salaire ne vient pas de nous. Le salaire vient de la haute hiérarchie. Il faut obtempérer. Dès que le salaire vient, ils seront rémunérés à bon moment.
Augustin Moulumba rassure que des démarches ont déjà été entreprises afin que ces enseignants puissent rentrer dans leurs droits. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, le bourgmestre de la commune de Lukuga, à Kalemie, Zedi Ntambwa, est lui attendu dans les prochains jours à une plénière du Conseil des élus communaux. Il est visé par une motion de défiance initiée le 30 avril dernier par le conseiller communal Robert Moussambia. Ce dernier reproche au bourgmestre une gestion jugée peu orthodoxe de la municipalité. Le point avec Paulin Munanga.
Parmi les griefs reprochés au bourgmestre de la commune de la Lukuga figure l'insécurité persistante marquée par des cas de vols répétés et l'absence de mesures efficaces pour protéger la population. La motion évoque également une insalubrité préoccupante caractérisée par l'accumulation des déchets et l'absence d'une politique d'assainissement efficace, cela malgré la perception des taxes. Le conseiller communal Robert Moussambia, initiateur de la motion, dénonce en outre une gestion administrative et financière opaque, sans retombées visibles sur le développement local. Il fustige aussi le manque du dépôt du budget communal, considéré comme une violation grave des règles de la gouvernance. L'initiateur de la motion appelle à la convocation d'une plénière afin d'obtenir la décision de la déchéance du bourgmestre par les biais du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, conformément à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Contacté, le bourgmestre de la commune de la Lukuga promet de réagir au sujet de cette motion de défiance. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'international donc, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été mis à dure épreuve hier lundi dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine, décidée à permettre le passage de certains navires bloqués, affirme avoir détruit plusieurs bateaux iraniens, ce que dément Téhéran. Les Émirats arabes unis ont essuyé une attaque iranienne, la première, contre les installations civiles depuis le cessez-le-feu il y a un mois. La tension croissante fait craindre le pire aux pays de la région qui se préparent à une reprise des hostilités. L'invité. Notre invité donc est Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi, s'exprime sur la problématique des embouteillages qui paralysent cette cité portuaire. Les causes et les solutions existent. Écoutons à ce sujet le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, au micro d'Élise Kavira.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame la journaliste.
Nous allons partir d'un cas concret. Il y a quelques jours, j'effectuais un voyage en provenance de Kinshasa pour venir ici à Matadi. Mais monsieur le maire, j'ai failli passer la nuit en dehors de la maison alors que j'étais plus loin de l'entrée même de la ville de Matadi. Parce que justement, il n'y avait plus moyen d'avancer à cause des embouteillages créés dans la ville par des gros camions. Nous avons l'impression qu'il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire?
Merci beaucoup, madame. Je crois que vous avez quand même passé la nuit chez vous à la maison. Peut-être que vous êtes arrivé les jours où il y avait une sortie exagérée des véhicules dans les ports. C'est pourquoi vous avez constaté des embouteillages. Actuellement, avec l'accroissement de l'activité économique, surtout que nous sommes une ville portuaire, il y a des véhicules des gros tonnages, des véhicules hors gabarit qui entrent et qui sortent de la ville. C'est tout à fait normal qu'on puisse enregistrer des embouteillages dans la ville. Mais nous faisons de notre mieux pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais sachez que nous sommes une ville portuaire avec 8 ports aujourd'hui qui fonctionnent à plein régime dans la ville de Matadi. Vous avez les ports de Ledia, MGT, vous avez les ports de Lonatra, vous avez les ports Sokopé, Congo-Diaou avec les Grimes, vous avez des pétroliums, vous avez des ports secs comme Ticom et Akover, vous avez la route d'Ango-Ango où beaucoup de véhicules poids lourds aussi sortent. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des véhicules qui doivent circuler dans les routes de Matadi qui sont restées les mêmes depuis 1960. On ne les a pas agrandies. Des véhicules poids lourds même pour faire les croisements jazz, dès qu'un tombe en panne, ça crée des problèmes. Donc avant, il y avait les ports MGT qui fournissaient beaucoup de conteneurs MERS. Mais aujourd'hui, là, le port de Lonatra a cédé un espace à la société MCTC qui rivalise MGT aujourd'hui. Donc, presque le même volume de conteneurs. 6 mois avant, il n'y avait que les ports MGT qui fournissaient beaucoup de conteneurs. Il faut également ajouter le fait que ces véhicules qui circulent là, les contrôles techniques se fait comment? Parce que chaque jour, il y a au moins un véhicule qui tombe en panne. Déjà avec la dimension de nos routes, lorsqu'il y a un véhicule poids lourd qui tombe en panne, sachez que ce sont des embouteillages. Mais quand cela ne tienne, nous faisons de notre mieux pour mettre les agents sur la voie principale, essayer de régler la circulation.
Ces embouteillages ne datent pas d'aujourd'hui. Je suppose que vous avez eu le temps de réfléchir aux potentielles solutions pour sortir de cette situation.
La ville de Matadi Si nous voulons qu'il n'y ait pas d'embouteillage, le chemin de fer doit fonctionner. Si le chemin de fer fonctionne, beaucoup de marchandises vont être évacuées par la voie ferrée et ça va résoudre les problèmes d'embouteillage. Vers les années 60, où il n'y avait qu'un seul port, toutes les marchandises pouvaient être évacuées par le chemin de fer. On ne sollicitait pas la route. Mais aujourd'hui, que nous avons 8 ou 9 ports, le chemin de fer n'existe pas. Tout doit passer par la route. Même au niveau de la nationale numéro 1, on commence à sentir qu'il y a surcharge des véhicules. Il y a un grand nombre de véhicules, moindre accident, moindre obstruction de la route. C'est tout est bloqué, donc il y a un problème qu'il faut résoudre, pas seulement au niveau de Matadi, mais même si la voie nationale numéro 1.
Aucune solution n'est envisageable par la voie routière.
Pour notre ville, nous avons toujours pensé à un contournement comme ça s'est fait ailleurs. Si vous êtes à Kinshasa, on construit une rocade qui va faire le contournement de la ville de Kinshasa. Comme ça, beaucoup de véhicules poids lourds ne feront plus leur entrée au centre-ville, mais vont contourner la ville pour aller jusqu'à destination. À Matadi, nous pouvons voir aussi une petite rocade comme ça, partie d'un Pozo, on peut monter jusqu'à Belvedere, Cabanana, et on va entrer au port de Matadi par Pont-Citra, Venise, et cette route-là peut arriver jusqu'à Ango-Ango. S'il y a une route comme ça, on va déjà éviter les centres-villes pour diminuer les embouteillages. Également, quand vous êtes à Bouima, on peut aller par Ndemba et aller jusqu'à Mpozo vers Afritrans. Ça peut également diminuer les embouteillages en évitant les centres-villes. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est ça la situation. J'ai vu la fois passée à l'Oratra, il y a des locomotives qui arrivent. Si vraiment, on peut avoir beaucoup de locomotives comme ça, au niveau de l'Oratra, que c'est les trains marchandises qui vont reprendre, on va trouver des solutions. Voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le maire.
Je vous en prie, madame.